Vox Populi.
Cité Soleil, un nom évocateur de vacances qui cache en fait le plus grand bidonville d'Haïti, un état des Caraïbes. Plus de 250 000 personnes y vivent dans des conditions sanitaires déplorables. La cité est construite sur des mangroves, sur le littoral, sous le niveau de la mer. Un endroit nauséabond quand les pluies diluviennes le transforment en marécages insalubres. À cet environnement hostile s'ajoute la violence. Haïti vit en effet dans l'instabilité politique depuis son indépendance en 1804. Coup d'état, dictature, élections libres aussitôt violées, et la mission actuelle de l'ONU ne parvient pas à assurer l'ordre et la sécurité dans un pays sans État, sans structure publique. Cité Soleil apparaît dans ce contexte comme une zone de non-droit, où la présence aussi bien de l'État haïtien que de l'ONU est absente, sinon bafouée par les chimères. Des chimères bien réelles, des chimères qui sont les anciens partisans du président Aristide, chassé du pouvoir en 2004, et qui mettent cette ville dans la ville, en coupe réglée. Ils y font régner la terreur, la violence au sein d'une population qui n'a pas besoin de cela. Vox Populi s'intéresse aujourd'hui à la mission qu'a installée sur place Médecins Sans Frontières Belgique. Loris de Philippi en est le chef, il vit là-bas depuis plus d'un an et doit composer avec chacune des deux parties, ONU et Chimère, pour apporter un peu d'aide, un peu de soutien aux habitants de Cité Soleil.
Nous avons établi une relation extrêmement claire, soit avec la force de stabilisation des Nations Unies, la MINUSA, que les chefs des quartiers où on travaille, en disant, voilà, notre mandat c'est clair, on soigne dans l'hôpital, on soigne dans un centre de santé, on veut chaque jour arriver sans problème, on veut avoir un espace humanitaire pour pouvoir travailler, et tout le monde a bien compris. Je pense que d'un côté, les groupes armés dans la ville, les chimères ont tout l'intérêt à avoir une organisation qui prend en charge les destins de la population. De l'autre côté, la MINUSTA a comme son mandat aussi de protéger d'un côté ou de l'autre des corridors humanitaires et tout ça. Nous, on n'utilise pas des corridors humanitaires, plutôt on a des contacts directs avec les deux contendants et là-dessus, on a une action extrêmement neutrale et impartiale. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de problème. Il y a un an et quelque chose qu'on travaille là-dedans et jamais on n'était ni ciblé ni même des accidents minimes. Sauf le 18 janvier de cette année, on a pris une dizaine de projectiles dans l'hôpital au deuxième étage, dans une nuit, probablement une rafale partie par hasard, soit de la MINUSTA, soit des groupes armés. Mais c'était absolument un accident qui on a eu la confirme un peu de tous les deux côtés, absolument pas voulu, pas désidéré. Quoi.
Quel est le type d'intervention que vous menez au sein de la clinique? Comment au jour le jour vous travaillez vraiment?
C'est un centre de santé qui fait 4000 consultes par mois, avec un laboratoire, avec un centre de consultation adulte, enfants, femmes enceintes. Et puis il y a un hôpital, un vrai hôpital, où on fait 200 accouchements par mois, on fait 100 interventions chirurgicales par mois, on fait 500-600 interventions dans la salle d'urgence, et on fait aussi des consultations externes. Et bien sûr, le département de chirurgie, de médecine, et une pédiatrie de 40 lits. C'est complètement rempli, il y a un taux d'occupation supérieur à 92%. Et justement, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec le ministère de la Santé. On a un personnel moitié MSF, disons, moitié Médecins Sans Frontières, moitié ministère de la Santé. On donne des primes pour incentiver les gens à travailler dans une condition extrêmement difficile. Et on essaye de faire le maximum pour avoir une qualité suffisante qui est un peu le standard de toutes les activités de Médecins Sans Frontières un peu dans le monde.
De quoi souffrent les gens qui viennent vous voir, hormis ceux qui sont victimes de blessures consécutives à des affrontements?
Disons que, à part les plaies qu'on a chaque jour, comme on disait avant, liées à la violence, il y a des traumas, c'est clair, psychologiques que les gens ont, une certaine sédimentation de toute la violence qu'ils ont subie pour des années, des années. Et puis, il y a les pathologies absolument normales, la diarrhée, les conditions de l'assainissement sont très difficiles. Les gens, et surtout les enfants, nagent dans des petits canaux et caniveaux absolument sales. la possibilité d'attraper des maladies diarrhéiques est assez importante. Il y a les maladies sexuellement transmissibles. C'est une condition de promiscuité, c'est une condition de manque d'utilisation de barrières physiques pour éviter des pathologies. Il y a sans doute, donc, surtout la saison de la pluie, une hausse de tout ce qui sont les maladies respiratoires aiguës. Au-delà de ça, les vrais problèmes qu'on trouve tous les jours, malheureusement, c'est la violence qu'on voit un peu partout. Et comme je disais, c'est vraiment étonnant de voir dans une urgence, dans un premier secours, plus que les 50% des gens qui arrivent sont des gens qui ont subi un acte de violence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait réfléchir.
Vous parliez des personnes qui souffrent de problèmes, on va dire, plutôt psychiatriques, psychologiques au moins. Comment faites-vous pour les soigner? Est-ce que vous sentez vraiment que c'est le problème qui va devenir, dans les années à venir, le problème numéro un?
Bah, certainement, ouais, c'est un problème extrêmement important. Nous, on est en train de l'étudier. Pour nous, la priorité numéro un, c'était vraiment limiter les numéros de gens qui mouraient parce qu'ils n'arrivaient pas à un service de chirurgie, parce qu'ils avaient une balle dans le ventre, et choses comme ça. Mais le deuxième pas, certainement, sera exploiter toutes les possibilités de traiter ces patients aussi de point de vue psychologique. Les grands problèmes, c'est 250 000 personnes traumatisées. Chacun dans sa famille a un, deux, trois personnes qui ont vécu un acte de violence extrême. Ils ont vu un homicide, un assassinat, un meurtre, un viol. Des situations extrêmement difficiles. Et imaginer de traiter tous les patients avec une approche clinique, c'est absolument impensable pour l'instant. Mais pour nous, certainement. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est analyser encore mieux. Dans les mois de novembre, décembre, probablement, on commencera à faire une évaluation avec des professionnels pour vérifier ce qu'on peut faire là-dessus. Mais certainement, je suis d'accord avec vous, ça va devenir certainement la pathologie numéro un comme importance à ce qu'il soit.
Quand on travaille comme vous depuis plusieurs mois sur place, quand on voit aussi depuis combien de temps la situation est la même, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de désespoir aussi bien de votre côté en tant qu'humanitaire, mais aussi du côté de la population de Cité Soleil?
Oui, c'est possible qu'il y ait une certaine possibilité que les humanitaires deviennent un peu comme la population locale, dans le sens que souvent, après surtout Duvalier, ils ont eu l'espérance de changer, l'espérance d'avoir un pays vraiment démocratique, un pays qui allait vers les progrès. Dans la réalité, depuis les 86, on voit toujours un pays en train de descendre. Et la possibilité d'un certain désespoir aussi dans les humanitaires est là. Et comme d'habitude, il faut s'interroger quelle est notre motivation et le fait que il faut pas rêver et penser que demain matin on résout les problèmes en Haïti, mais goutte par goutte, je pense qu'on peut faire des choses. Et c'est pas seulement mettre des spardas sur des plaies infectées, comme souvent est la fonction de l'humanitaire, mais aussi essayer de continuer à donner l'espoir à des gens qui s'y sont laissés tout seuls, comme les gens de Cité Soleil, tombent dans une dépression absolument totale et avec sans possibilité de se remettre. Je pense qu'il faut donner l'espoir, il faut être présent, il faut être en proximité. C'est extrêmement important que pas seulement les locaux, mais aussi les expatriés restent en contact avec ces populations et donnent au moins l'espoir et la sensation que pas tout le monde les quitte tout seul. Et ça, c'est un sentiment que je comprends bien et parfois je vois même dans mon staff, mon équipe, des gens qui après des mois disent « Écoute, c'est une situation sans retour, c'est une situation impossible à régler ». Le président du pays, quand il était élu, il a dit qu'il faudrait 35 ans pour mettre en fonction le pays. Et je pense que, voilà, sans être si négatif et tout ça, il faut imaginer que le processus de reconstruction du pays et d'apaisement sera un processus extrêmement long. Et il faut le faire avec des petits briques que chaque jour on va mettre.
Loris de Philippi, chef de la mission de Médecins sans frontières Belgique à Cité Soleil en Haïti, était aujourd'hui l'invité de Vox Populi.